Le Corse et l'Auvergnat.
Jérémy Yalon.
Romain Marcilli.
Bonjour Romain.
Bonjour Jérémy.
Pour ce 35e épisode du Corse et de l'Auvergnat, nous mêlerons comme souvent des problématiques d'ordre local à des défis majeurs sur le plan international, en constatant une fois encore combien ceux-ci sont liés. De la Corse et l'Auvergne à Bruxelles et l'Afrique, nous tenterons d'analyser certaines dynamiques cruciales pour nos concitoyens.
Comme chaque semaine, nous parlerons sur un ton décalé de politique, de géopolitique, de culture et de bien d'autres choses. Au programme de cet épisode, nous profiterons du Salon d'agriculture que nous avons eu le plaisir de visiter pour évoquer quelques grands enjeux agricoles représentatifs de beaucoup d'autres questions politiques françaises et européennes.
Nous reviendrons ensuite sur la tournée d'Emmanuel Macron en Afrique centrale et saisirons cette opportunité pour discuter plus largement de la diplomatie africaine de la France ainsi que de l'actualité d'un pays majeur mais souvent oublié, le Nigeria.
Et nous finirons comme chaque semaine par nos coups de cœur qui nous amèneront à parler d'un fait divers en pleine mouvance complotiste et des liaisons dangereuses sur le plan énergétique entre Berlin et Moscou. Jérémy, la semaine dernière, nous étions au Salon de l'agriculture, moment toujours très sympathique, une vitrine de tout ce que la France peut produire de mieux, moment de fierté, de rencontre, de convivialité, de partage avec la Convergence à Paris, porte de Versailles, de tous ces agriculteurs dont beaucoup sont heureux de se retrouver. Et puis, il y a des moments de débat, de découverte aussi. Puis, beaucoup de petits Parisiens, on en croise pas mal, ce sont souvent les vacances scolaires, qui n'ont pas l'habitude de voir beaucoup d'animaux, ben, ils sont assez émerveillés. Alors, pour ta part, tu as grandi à la campagne, donc l'habitude de voir les animaux, tu l'as bien. Mais c'était en revanche ta première fois au salon. Alors, j'espère que ça t'a plu.
Oui, effectivement, c'était la première fois au Salon de l'agriculture. Ça a été un très beau moment et puis c'était un vrai bonheur de passer une partie de cette journée avec toi. Alors, tu l'as dit, c'est vrai que c'est un moment de fierté parce que tu vois combien la France est riche de terroirs en termes de produits, combien son agriculture est assez extraordinaire et on reviendra là-dessus. C'est extrêmement intéressant, le Salon de l'agriculture, parce que ça réunit aussi tous les acteurs de la filière. C'est-à-dire que tu as évidemment l'image d'Épinal, des agriculteurs venant avec leurs bêtes, mais tu as aussi toutes les filières qui sont présentes, tu as tous les acteurs du monde agricole et agroalimentaire qui sont présents. Donc ça, c'est assez passionnant. Et puis, je trouve que ça dit quand même quelque chose de la France parce que, pour deux raisons. D'abord, il n'y a pas de pays où il y a l'équivalent du Salon de l'agriculture. Le Salon de l'agriculture, c'est une institution très française et ça montre que même si la place de l'agriculture dans notre économie, en termes de pourcentage de la population active, s'est considérablement réduite au cours des dernières décennies, l'agriculture continue d'avoir une place très à part dans notre imaginaire. Et puis la deuxième chose moi, que j'ai beaucoup aimé, c'est que le Salon de l'agriculture, c'est un lieu où tu as quelque chose de plus en plus rare en France, c'est que tu as en fait toutes les classes sociales qui sont là. Tu vois des, entre guillemets, des beaux Parisiens qui viennent avec leurs enfants leur montrer les animaux, mais tu vois aussi des gens de classes beaucoup plus populaires qui sont là, tu as des provinciaux, bref, tu as ce mélange qui aujourd'hui malheureusement devient trop rare et je trouve que tout ça crée une atmosphère très sympathique.
Si nous voulions parler d'agriculture aujourd'hui, c'est aussi au-delà du salon, parce qu'il s'agit d'un secteur qui concentre en lui bien des sujets politiques et géopolitiques que nous évoquons chaque semaine. Et sur l'agriculture, il y a une contradiction. Alors, d'une part, bien sûr, c'est un sujet de fierté, et puis au-delà de tout ce qu'on vient de dire, l'agriculture française est une des plus performantes, qualitatives et même durables au monde. La France, on le sait, c'est la première puissance agricole européenne, une des cinq premières au monde. Et puis dans un contexte où notre balance commerciale est catastrophique, avec un déficit encore record cette année, l'agriculture, c'est l'un des rares domaines où nous sommes encore excédentaires. Mais une fois qu'on a dit ça, la réalité semble beaucoup plus contrastée. Tout d'abord, la balance commerciale agricole est excédentaire, certes, mais c'est grâce au vin, aux spiritueux et aux céréales. Si on enlève les exportations de ces produits, la balance est déficitaire. Et là, les chiffres sont quand même très inquiétants. Alors, tu as dit que la population agricole est en diminution, mais ça, à la rigueur, c'est un mouvement naturel, logique dans l'évolution de nos sociétés. En revanche, la baisse de la production et la baisse de la productivité, ça, c'est beaucoup plus inquiétant. La France importe plus du double de denrées alimentaires aujourd'hui par rapport au début du XXIe siècle. On importe un peu plus de la moitié des fruits, un peu moins de la moitié des légumes, quasiment la moitié de la viande blanche et un quart de la viande rouge. L'impression C'est pour ça que je dis que ça fait référence à des sujets que l'on évoque régulièrement. L'impression, c'est qu'il se déroule exactement pour l'agriculture ce qu'il se passe pour l'industrie. C'est-à-dire, on produit de moins en moins, notre balance commerciale s'aggrave, on perd en souveraineté, et tout ça, cela s'explique aussi par des choix politiques absolument désastreux, locaux et européens. Je crois qu'il y a un parallèle à faire avec l'industrie. Il y a beaucoup de choses à dire de ce point de vue-là.
Oui, je crois que tu as résumé une certaine partie des défis de notre agriculture. Alors, c'est vrai que pour moi, il y a un premier sujet, c'est celui que tu as esquissé, la question de la souveraineté alimentaire. Alors, évidemment, dont on parle beaucoup depuis le début de la guerre en Ukraine. Et je pense que là, il y a deux niveaux. Il y a la question de la souveraineté européenne, c'est-à-dire dans quelle mesure, au niveau européen, on est souverain sur un certain nombre de produits. Et puis ensuite, il y a la question de la souveraineté française. Alors, je pense, bon, de manière structurelle, si tu regardes, tu as des produits par définition, des fruits exotiques, du riz, etc. Des choses qui sont aujourd'hui, qui font partie de notre régime alimentaire. On sera jamais souverain là-dessus. En revanche, ce qui n'est pas normal, c'est que tu as notamment, par exemple, sur les fruits et les légumes tempérés, on était souverain et aujourd'hui on ne l'est plus. Donc ça, c'est le premier angle, à mon avis, premier défi, qui est celui de la souveraineté alimentaire. Comment est-ce que on crée les conditions pour que la France soit capable de tout simplement subvenir aux besoins de sa population sans qu'on soit en besoin d'importer? Et là-dessus, je pense que le problème, c'est qu'on met nos agriculteurs face à des injonctions contradictoires. Si on revient un petit peu en arrière, la PAC, lorsqu'elle est lancée au début des années 60, a une logique purement productiviste. On dit à nos agriculteurs, faut toujours plus produire. Bon, les agriculteurs se mettent en ordre de marche. Et le fait est que la PAC est à cet égard un succès. Juste une statistique, moi, que j'ai lue récemment, qui m'a frappé. En 1950, un agriculteur en France, en équivalent calories, nourrissait à peu près entre 5 et 8 Français. Aujourd'hui, un agriculteur est capable de nourrir entre 60 et 80 Français. Donc, tu vois bien que l'agriculture a fait des progrès. Le problème, c'est que maintenant, on dit, et on peut dire, c'est tout à fait légitime, cette agriculture extrêmement productiviste s'est faite au détriment des sols, au détriment de la biodiversité, etc. Donc, on impose un certain nombre de contraintes écologiques plus fortes à nos agriculteurs. Deux choses là-dessus. La première, c'est que moi, j'ai toujours du mal avec certains responsables politiques, ONG ou activistes qui font la leçon aux agriculteurs sur comment préserver l'environnement, quand on sait que les agriculteurs sont quand même généralement ceux qui connaissent le mieux leur territoire, tout simplement parce qu'ils ont hérité de l'exploitation souvent de leurs parents, de leurs grands-parents, qui vont la transmettre à leurs enfants, que c'est là où ils vivent et que donc, par définition, s'il y en a bien qui sont bien placés pour connaître nos terroirs, nos territoires, nos sols, ce sont eux. Et puis la deuxième chose, c'est que on leur pose cette nouvelle injonction, mais on leur donne pas les moyens d'y arriver. On leur dit, vous arrêtez d'utiliser des pesticides, mais on leur donne pas de solution alternative. On dit, voilà, il faut que vous continuiez de produire pour assurer notre souveraineté alimentaire, mais en même temps, on refuse de soutenir certaines techniques d'innovation. Et donc là, je pense qu'il y a eu effectivement des contradictions colossales au niveau de nos responsables politiques, et sur ce premier enjeu de souveraineté, nous n'avons pas toujours été cohérents.
Oui, je te trouve modéré dans pas de tes mots. Moi, je pense que ce n'est pas une contradiction, c'est une folie idéologique. Et en fait, il y a une folie de surtransposition des normes. Alors bien sûr, c'est une injection contradictoire. Bien sûr, l'Europe met des règles, mais ça, je pense qu'on va en reparler dans quelques minutes, qui sont en soi contestables dans le cadre de la nouvelle PAC. Mais avant, arrêtons de parler d'Europe et de mettre tous nos mots sur le dos de l'Europe. Il y a des mots français, purement français. En France, on crée toujours plus de normes, alors pour les agriculteurs comme pour tout le monde, mais encore plus pour les agriculteurs. On va plus loin que les normes déjà exigeantes de l'Europe. Et puis, il y a un double effet, je dirais presque sociologique, de technocrates qui sont obsédés par les normes et le principe de précaution et qui veulent toujours davantage ouvrir le parapluie en parlant de biodiversité alors qu'ils n'ont jamais vu un bout de campagne de leur vie, ils ne savent pas ce que c'est. Et puis en même temps, tu as des idéologues de la décroissance qui ont un poids dans les institutions politiques et administratives. Et alors bien sûr, il y a des milliards d'exemples qui sont de plus en plus cités par les agriculteurs, et ils ont été beaucoup évoqués en marge du salon. L'exemple le plus mentionné dans les médias, c'est les insecticides qui permettent de protéger les betteraves, qui sont désormais totalement interdits en France, mais ce qui n'est pas le cas dans un pays comme l'Allemagne, qui est beaucoup plus prudent et qui, on ne peut pas dire que l'Allemagne soit un pays dans lequel l'écologie politique ne compte pas, puisqu'ils sont au pouvoir, mais qui pourtant sont beaucoup plus prudents. En France, on saccage une filière, en l'occurrence celle du sucre, et dans le même temps, on importe des produits venant de l'étranger, intra-européens, en l'occurrence, qui ne subissent pas les mêmes normes. Et il y a beaucoup d'exemples, tu as l'exemple des cerises qui a aussi été évoqué, avec une sorte d'insecticide qui lutte contre les insectes qui viennent bouffer les cerises hein, et empêcher les bonnes récoltes, et ben, il a été interdit. Donc le temps des cerises, c'est terminé, et on importe des cerises de Pologne et de Turquie qui, dans ces pays-là, on utilise ces substances. Donc il n'y a même pas il n'y a même pas le bienfait écologique au niveau du consommateur, si tant est que ce soit un vrai problème. On peut multiplier l'exemple, mais la logique, elle est toujours la même. Alors, bien sûr, ce n'est pas la seule raison hein, du déclin de la production agricole. On pourrait parler, tu l'as esquissé, du contexte géopolitique, de la hausse des prix de l'énergie, et puis de manière aussi très structurelle en France, les excès de bureaucratie, au-delà des normes environnementales, tu as aussi beaucoup de bureaucratie imposée aux agriculteurs qui perdent un temps fou. Et puis la PAC. La nouvelle PAC, mais là, c'est un autre sujet.
Alors, d'abord, ça me fait plaisir, mon cher Romain, que tu rappelles que sur cette question agricole, où on a tendance à souvent blâmer l'Europe, une grande partie de nos maux vient effectivement de ce mal français qui est celui de la surtransposition et de toujours imposer plus de normes, notamment à nos agriculteurs, mais on voit ça dans pas mal de secteurs. Ensuite, je pense que tu reprochais à nos technocrates, à certains activistes de pousser ce mouvement. Je pense qu'il y a aussi une responsabilité collective sur l'agriculture. Et là-dessus, je pense que c'est les Français dans leur ensemble qui doivent faire preuve de plus de cohérence. C'est-à-dire qu'à un moment, les Français demandent toujours plus de qualité, ils ont raison, mais ils veulent des prix toujours plus bas. Ils veulent des légumes locaux, mais c'est les premiers à râler quand les paysans arrosent l'été. Ils veulent moins de pesticides, mais ils ne sont pas prêts à payer pour des solutions alternatives. Là-dessus, il faut quand même de la cohérence. Ensuite, tu as aussi le problème, on a beaucoup parlé là des cultures, mais la question de l'élevage. Moi, je trouve que la question est très, très inquiétante, parce que si on s'intéresse aux bovins, par exemple, la France a perdu près de 2 millions de bovins en 5 ans. La collecte laitière est en recul. On considère qu'on risque de perdre encore 10% de notre cheptel d'ici 2030. Or, on se retrouve dans cette situation aberrante où on importe aujourd'hui de la viande rouge. Et puis, deuxièmement, tu as des campagnes, alors parfois de santé publique, mais aussi plutôt un discours latent dans les médias, etc., qui a été très critique de la viande rouge. Or, la viande rouge, il faut quand même le rappeler, je me permets de le rappeler, c'est un aliment qui est riche en vitamine B, en zinc, qui est une bonne source de fer, de protéines, bref, de nutriments qui sont absolument essentiels pour notre métabolisme et qui nous permettent notamment de produire des anticorps. Et donc, je pense qu'il y a aussi eu tout un discours anti-viande en France dont on paie malheureusement le prix et dont des agriculteurs sur le terrain paient le prix. Des éleveurs qui, par ailleurs, travaillent très dur, ne prennent jamais de jours de vacances, se retrouvent avec des rémunérations plutôt très faibles. Je rappelle quand même qu'un éleveur en France, il a une rémunération moyenne entre 800 et 1000 euros par mois, ce qui est très faible par rapport au travail qu'il fait. Et surtout, quand on compare aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mais à ce que gagne quelqu'un qui ne se lève pas le matin. Très concrètement, aujourd'hui, quelqu'un qui accumule un certain nombre d'aides gagne plus qu'un éleveur. Donc ça, c'est quand même pas normal. Donc on arrive dans cette situation-là, situation qui est aggravée par le fait qu'on a aussi un vrai défi de transmission des exploitations agricoles. Parce qu'aujourd'hui, 50% des agriculteurs ont plus de 50 ans. On peine en fait à trouver aujourd'hui des jeunes qui reprennent les exploitations agricoles. On peine aussi à permettre à ceux qui sont salariés agricoles et qui aimeraient acheter leurs exploitations de faire ce pas, parce que ça suppose des investissements très élevés. Il faut parfois mettre quasiment 1 million d'euros sur la table pour récupérer une exploitation agricole. Donc souvent, c'est très compliqué pour des gens qui ne sont pas enfants de paysans. Donc il faut créer des mécanismes qui facilitent cela. Alors il y a des structures juridiques qui ont été créés notamment pour permettre des associations d'agriculteurs qui travaillent dans des groupements agricoles d'exploitation commune, ce qui permet notamment aux agriculteurs de pouvoir prendre quelques jours de vacances, de travailler dans des conditions un petit peu plus simples. Mais tout ça demande à être amélioré. Et ce défi de la transmission des exploitations, c'est un défi absolument essentiel pour l'avenir.
Tu évoques les discours médiatiques anti-viande. Bon, bien sûr, on ne va pas faire un débat sur la viande rouge. Hein. Peut-être qu'il faut en manger un peu moins quand même. Et aujourd'hui, il y a des très belles alternatives qui sont d'ailleurs aussi très bonnes, qui sont de type vegan. Il n'y a pas d'incompatibilité à aimer beaucoup la viande et puis aussi à en manger un peu moins. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet que tu évoquais, et qui, à mon avis, tu touches quelque chose de juste, c'est les discours, on va dire, métapolitiques autour de l'agriculture, de la gastronomie, du vin. Rappelle-toi qu'il y a quelques semaines, je pense même qu'elle passe toujours à l'antenne, il y a une campagne payée par nos impôts, puisque c'est une campagne de communication gouvernementale qui fait culpabiliser les gens quand ils disent, lorsqu'ils trinquent, santé. Parce que non, en fait, c'est pas bien, parce que vous dites santé, alors qu'en fait, vous êtes en train de vous la ruiner parce que vous buvez un verre de vin ou de champagne. Donc il y a aussi tout un aspect de prohibition, de moraline qui envahit le débat, et ça, c'est très regrettable, mais ça, c'est, je pense que c'est un mouvement qui est culturel, de nihilisme culturel, qui va au-delà de l'agriculture. T'inquiète pas, pour le reste, je comptais aussi parler d'Europe, parce que c'est pas parce que je pense que la gestion française est calamiteuse que l'Europe va s'en tirer comme ça. Encore une fois, quand je dis l'Europe, c'est pas quelque chose d'abstrait, un système, une conjuration de bureaucrates, non, je parle des personnes qui font les choix politiques. Peut-être que ces choix politiques, demain, ça peut être différent en cas de changement aussi de majorité, d'équilibre politique. Donc je fais référence à la Commission actuelle et à sa fameuse stratégie « Farm to Fork ». Alors là, je trouve que c'est exceptionnel. Rien que le nom, il est quand même empreint magnifiquement de politiquement correct. Donc en gros, « Farm to Fork », de la ferme à la fourchette. On édulcore tout le reste, hein. Donc, enfin bon, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus en termes de symbolique, de choix. Mais globalement, sans rentrer dans tous les détails, parce que bien sûr, il faut pas être manichéen. Globalement, toutes les études d'impact montrent qu'il s'agit, en mettant toujours plus de normes pro-environnementales, mais encore une fois, l'enfer est pavé de bonnes intentions. En fait, on organise purement et simplement la décroissance. Et les études d'impact évoquent une baisse de 10 à 20% des rendements, d'une forte augmentation des importations. Donc là, tu parlais de souveraineté européenne, ben, elle est quand même vraiment mise à mal. Et c'est non seulement terrible pour nous, Européens, parce qu'on perd en souveraineté, on perd en emploi, on perd en savoir-faire, mais pour le reste du monde, c'est aussi un cynisme absolument terrible. Parce que l'Europe n'est pas n'importe quel continent. On est un continent d'excellence agricole. C'est pas que grâce à nos techniques, c'est aussi grâce à notre climat. On est un continent au climat tempéré qui permet des cultures massives et exceptionnelles. Et si on diminue nos productions, on favorise les tensions inflationnistes. Il n'y a pas besoin de ça en ce moment, vu le contexte. Et nous-mêmes, nous n'en serons pas les premières victimes. Parce qu'il y a 2 milliards d'habitants en plus à nourrir depuis le début du siècle, et que nous, on aura les moyens, globalement, sauf effondrement économique qui n'est quand même pas pour tout de suite, on aura toujours les moyens d'acheter à prix plus élevé ces produits. En revanche, on va affamer une grande partie des pays en développement. Et au nom de quoi ? Si c'est pour nous avoir des normes exceptionnelles qui font qu'on ne produit plus, mais qu'on importe venant de pays qui n'ont pas ces normes, on sait très bien que d'un point de vue environnemental, où l'enjeu du climat est global, cela ne changera absolument rien. Moins polluer en Europe, mais pour polluer tout autant, pour transférer notre pollution en Afrique, en Asie ou ailleurs, pour le défi global, mondial du climat, ça ne sert à rien. Et en plus, dans le contexte de bouleversement géopolitique et de dérèglement climatique, aller dans cette direction, c'est une folie. Pour l'instant, tu le rappelles souvent, il faut préciser que c'est surtout le Parlement européen et une partie de la Commission qui poussent pour cette folie. Je ne suis pas sûr que la totalité des États marche en ce sens. Confère notre discussion l'autre jour sur les voitures électriques. Le Parlement européen et la Commission voulaient interdire le moteur thermique dès 2035. On voit déjà que des pays aussi importants que l'Allemagne et l'Italie ont mis le holà. Donc là aussi, c'est pas parce que on a des dérives un peu extrémistes au sein du Parlement et de la Commission que cela va se produire nécessairement.
Oui, alors je pense que juste pour nos auditeurs, peut-être prendre un petit peu de recul et essayer d'un petit peu schématiser ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que au niveau agricole, au niveau européen, tu as une politique dont on a parlé, c'est la politique agricole commune, qui est bien connue, qui a été lancée donc au début des années 60, qui avait été instituée par le traité de Rome en 57, et qui se réforme de manière régulière à peu près tous les 7 ans. En fait, si on prend une tendance de long terme, on est passé sur une PAC qui était ultra-productiviste au début, qui a eu, et puis l'idée un petit peu sous-jacente, c'était dans une Europe qui avait été dévastée par la Seconde Guerre mondiale, où les gens avaient connu la misère, les restrictions, avoir une agriculture européenne qui soit capable de nourrir les Européens et puis également de faire de l'Europe une puissance agricole. Elle a atteint cet objectif, mais déjà dans les années, au début des années 90, en 92, on s'est aperçu qu'on produisait énormément, presque trop parfois, donc on avait introduit les systèmes des quotas, et puis ensuite est arrivée toute une logique environnementale. L'idée a été de dire comment on concilie, en fait, dans la PAC, une agriculture qui continue d'essayer de nourrir les Européens et de faire de l'Europe une puissance agricole, mais en même temps, prendre en compte certains principes agronomiques de base, notamment pour permettre au sol de se régénérer, à la biodiversité de se maintenir, etc. etc. Tout ça, ça a été le but de la PAC. Il y a un certain nombre aujourd'hui de subventions qui sont accordées aux agriculteurs, qui sont basées, justement, sur les engagements qu'ils prennent sur le plan environnemental. Juste quand même rappeler qu'à mon avis, une des grandes failles de la PAC et qu'elle n'arrive pas à résoudre, c'est son ultra-complexité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les agriculteurs passent énormément de temps à remplir des dossiers de subvention qui sont extrêmement compliqués, qui sont à la fois très importants pour eux, mais très compliqués. Et donc, ça suppose en fait pour des agriculteurs de passer beaucoup de temps sur l'administratif là où parfois ils auraient besoin plus de leur temps pour travailler leur terre, travailler avec leurs bêtes. Ça, c'est un premier point, une première faille. Deuxièmement, il faut bien que nos concitoyens comprennent aussi que les agriculteurs sont extrêmement contrôlés sur la mise en œuvre de la PAC. C'est-à-dire que notamment l'Union européenne utilise son réseau satellitaire pour en fait contrôler que chaque agriculteur, par exemple, quand il dit qu'il va faire certaines cultures, il les fait bien. Quand il dit qu'il va laisser des terres en jachère, il les laisse bien telle année. Et puis, troisièmement, mais ça c'est une évolution je trouve très intéressante sur le plan démocratique, et je pense que ça va t'intéresser, c'est que dans la dernière mouture de la PAC, donc dans la nouvelle PAC qui a commencé d'être appliquée à partir du 1er janvier 2023, Bruxelles a fait quelque chose de très intéressant qui pourrait d'ailleurs être appliqué à mon avis à d'autres politiques. Elle a dit, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décider au niveau européen les grands principes, mais ensuite, chaque État membre va mettre en place un plan national de mise en œuvre de la PAC. Et donc, l'idée, c'est qu'au niveau de chaque État, vous allez, avec vos acteurs locaux, avec vos agriculteurs, voir ce qui est le plus adapté à vos contraintes locales. Et l'idée, c'est de réintroduire de la démocratie dans la PAC et surtout faire en sorte que demain, les gens cessent de blâmer Bruxelles pour tous les maux de la PAC, mais disent, bah, voilà, c'est que peut-être qu'au niveau de mon gouvernement national, il y a des choses qui ont été mal décidées. Donc ça, c'est une innovation très intéressante. Donc ça, c'est la PAC. Et puis à côté, et ça, c'est effectivement ce que tu décrivais, il y a, avec cette commission, la Commission européenne actuelle, toute une série de grandes mesures qui ont été lancées, notamment par le vice-président de la Commission, Timmermans, qui est néerlandais, sur des mesures d'ordre environnemental. Alors évidemment, par définition, il ne faut pas non plus être dogmatique. On ne peut que vouloir une Union européenne qui joue un rôle de leadership sur le plan environnemental, etc. Mais comme tu le disais, le gros problème, c'est que tu as un certain nombre de contradictions entre ces mesures environnementales, ces grands paquets législatifs, parce qu'on parle de dizaines et de dizaines de mesures législatives qu'on va imposer à nos agriculteurs, mais aussi à notre industrie, hein, plus généralement. C'est nos agriculteurs, notre industrie, nos acteurs économiques, et en même temps, les objectifs qu'on leur assigne. Et en l'occurrence, Farm to Fork, il y a probablement des choses intéressantes, mais c'est vrai qu'incontestablement, il y a eu beaucoup d'études d'impact qui le montrent, et d'ailleurs, nos partenaires à l'international le disent, ça va augmenter une baisse de la production en Europe. Donc ce qui, quand même, dans le contexte actuel, est une folie. Une hausse en conséquence du prix des denrées alimentaires qui va impacter nos concitoyens, mais aussi les autres pays dans le monde. Et puis, comme tu le disais, il y a la question de la cohérence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu imposes certains standards à nos agriculteurs, par définition, ce n'est pas pour importer des produits d'autres régions du monde qui n'importent pas les mêmes standards. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce que fait l'Union européenne ? Elle essaie de mettre en place une politique commerciale plus protectionniste. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, on dresse des barrières commerciales, on crée des tensions commerciales avec nos autres partenaires et ça crée d'autres problèmes. Donc, tout ça, effectivement, manque de beaucoup de cohérence aujourd'hui, de beaucoup de vision, et je pense que de manière assez idéologique, on prend certaines décisions, certains virages, dont on pourrait à mon avis payer le prix, à court et à moyen terme, de manière très violente.
Folie, manque de cohérence, manque de vision, bien sûr, je suis d'accord avec tes mots. Encore un sujet fondamental, on parle quand même de la nutrition des gens, où les dirigeants européens actuels font totalement fausse route. Ça fait quand même beaucoup de sujets chaque semaine, un coup l'immigration, aujourd'hui on parle de l'agriculture, on a parlé de l'industrie, où on a un échec total. Et je crois qu'il y a quand même aussi, derrière tout ça, un lobby de la décroissance qui est à son œuvre et de la déproduction. Alors bien évidemment, les commissaires européens dont tu parles ne sont pas des extrémistes verts pour la décroissance, mais on sent quand même le poids politique au Parlement européen. Et je pense, dans les institutions, on voit ce poids-là, cette idée, cette musique de la décroissance, de la déproduction, qui ne cesse de progresser, et je pense que c'est un nihilisme. Et d'un point de vue politique, il est toujours intéressant de noter que ces élus, souvent extrémistes verts, qui pèsent pour beaucoup hein, dans ces décisions et dans ces coalitions, qu'il s'agisse d'industrie ou de culture, qu'on fait encore une fois là en ce moment les débats de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le sabotage du nucléaire français, bah, ce sont des gens qui sont élus toujours des circonscriptions urbaines. Donc la campagne, ils connaissent très peu.
Tout à fait. Alors, permets-moi juste une petite incise sur la PAC. Je pense que la PAC a ses failles, ses défauts, etc. Et j'en mentionnais certaines. Mais je crois qu'il faut quand même aussi rappeler que, par exemple, aujourd'hui, le Royaume-Uni, qui est sorti de l'Union européenne, eh ben, en fait, avait dit, un des slogans de la campagne, c'était de dire « Ah là là, on va se détacher de la PAC, on aura une politique agricole beaucoup plus efficace. » Et le fait est que la situation est absolument désastreuse au Royaume-Uni pour les agriculteurs, qu'ils ne sont pas du tout arrivés à trouver un substitut à la PAC, qu'au contraire, ils s'aperçoivent qu'en fait la PAC, malgré tous ses défauts, était probablement une politique qui n'était pas si mal pour soutenir l'agriculture, et qu'aujourd'hui ils ont mis en place une nouvelle politique, mais que sur 100 000 agriculteurs au Royaume-Uni, il y en a à peine quelques centaines qui ont bénéficié des schémas qui avaient été prévus par le gouvernement britannique. Il a fallu en toute urgence en début d'année qu'ils donnent une subvention de 1 000 livres à tous les agriculteurs. Et donc ça te montre aussi, et ça je pense que c'est quand même important de le rappeler, qu'au niveau européen, la PAC telle qu'elle a été pensée a évidemment des limites, mais c'est quand même extrêmement dur aujourd'hui sur le plan agricole d'imaginer une alternative. Et d'ailleurs, à tous ceux qui disent qu'il faudrait en fait supprimer la PAC, aujourd'hui tous les économistes qui travaillent sur ces questions, tous les spécialistes du monde agricole disaient que si demain on supprimait la PAC, toutes nos petites exploitations disparaîtraient et les seules fermes qui resteraient, ça serait des grandes fermes industrielles. Évidemment, c'est pas ce qu'on veut, et donc il faut quand même rappeler que la PAC, malgré tous ses défauts, est quand même un outil absolument essentiel pour notre agriculture.
Non, il ne faut pas jeter la PAC avec l'eau du farm to fork, hein, bien
fait.
Évidemment. Et la PAC, si on prend le bilan depuis son origine, tu l'as rappelé, il est quand même globalement positif. Et là, on parle vraiment globalement positif. Il y avait bien sûr des abus, il y a des fausses déclarations d'animaux, ici et là. Il y a eu des phénomènes d'inégalité qui faisaient que c'était surtout les propriétaires agricoles les plus riches qui bénéficiaient avant tout de la PAC. Donc il y a eu des équilibrages qui n'ont cessé d'être opérés dans un sens positif. Et bien évidemment, personne ne peut être contre le fait de prendre en compte la donnée environnementale. Là, je pense simplement qu'avec cette réforme, enfin ce farm to fork, on arrive à certains excès. De plus, dans le contexte géopolitique que nous avons rappelé en Ukraine, qui a des incidences partout dans le monde, et notamment, et je ferai peut-être une transition avec le deuxième sujet qu'on voulait évoquer aujourd'hui, notamment en Afrique, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la question agricole est absolument centrale en Afrique, on en reparlera peut-être une prochaine fois. En revanche, si on voulait parler spécialement d'Afrique aujourd'hui, c'est parce que Emmanuel Macron vient de terminer une tournée assez longue, de plusieurs jours, dans ce continent. On évoquait dans les derniers épisodes les tournées diplomatiques des dirigeants russes, chinois ou américains, dans un continent qui fait plus que jamais l'objet de terribles luttes d'influence politique, militaire, de soft power économique et culturel. On avait aussi évoqué la place toujours plus contestée de la France sur le continent africain, avec beaucoup de désinformation, notamment orchestrée par des puissances comme la Russie. Et puis donc cette volonté de construire de nouvelles relations entre la France, les dirigeants africains, et puis je crois surtout les forces vives et économiques africaines. C'était ça le but affiché de la visite du président Macron au Gabon, en Angola, en République démocratique du Congo et au Congo-Brazzaville. C'était sa première visite diplomatique en Afrique depuis la fin de l'opération Barkhane.
Oui, alors effectivement, le président Macron, quand il est arrivé au pouvoir en 2017, peu après son arrivée au pouvoir, a prononcé un discours où il a essayé d'esquisser ce qu'il considérait être une nouvelle politique africaine, et notamment de rupture avec la France-Afrique, de rupture avec les pratiques du passé, et finalement une approche qui serait beaucoup plus à la fois, alors, pas simplement d'État à État, mais aussi un échange beaucoup plus à travers les sociétés civiles. Et puis, une approche qui serait beaucoup plus une approche d'égal à égal avec l'ensemble des pays africains, où on aurait des échanges économiques, culturels, politiques, etc. Je pense que cette approche ne pouvait être que louable. Et le problème, c'est qu'elle s'est heurtée à la fois un mur de réalité qui a été la question notamment sécuritaire, qui a complètement dominé l'agenda français en Afrique, notamment au niveau subsaharien. Et puis aussi un héritage du passé qu'il est extrêmement dur de dépasser. Héritage évidemment colonial, mais héritage aussi de tensions avec un certain nombre de pays. On pense notamment à un certain nombre de pays en Afrique du Nord, un pays comme l'Algérie par exemple. Et donc tout ça fait que, d'un côté, il y avait la volonté du président Macron d'aller vers une nouvelle politique française en Afrique, mais qui se heurtait constamment à des enjeux d'ordre sécuritaire et puis des réminiscences du passé. Et donc là, dans la dernière séquence, le président Macron a commencé par prononcer un discours à Paris, le 28 février, où il a essayé un petit peu de faire un bilan d'où on était, notamment après, tu le rappelais, le retrait de nos troupes françaises et la fin de l'opération Barkhane. Il y a un moment de son discours, je trouve, qui est très... où finalement, il reconnaît un petit peu où nous en sommes, et je le citerai. Il dit « Il nous faut être lucides, nous ne sommes aujourd'hui qu'au milieu du gué. C'est une situation très inconfortable, où nous continuons à être en quelque sorte comptable du passé, avec une politique qui a décidé très clairement de changer et qui a parfois perdu des soutiens qui étaient bien utiles parce que nous voulions changer de méthode sans que nous ayons pleinement les résultats de la politique que nous avions lancée. » Et je crois que quelque part, tout est résumé. C'est-à-dire que quand tu dis « je mets fin à la France-Afrique et je mets fin à la coopération, à nos liens extrêmement étroits avec un certain nombre de dirigeants sur lesquels la France s'était appuyée en Afrique », eh bien, par définition, tu perds ceux qui ont été tes alliés pendant longtemps. Mais le problème, c'est que tu ne les remplaces pas tout de suite. Et donc, tu te retrouves dans cette situation où tu es un petit peu attaqué de toutes parts. Et c'est un petit peu la situation dans laquelle la France est aujourd'hui. Par ailleurs, on fait face, et ça on l'a souvent mentionné, à des interférences de puissances tierces qui sont de plus en plus influentes en Afrique. Et c'est dans ce contexte-là que le président Macron a fait une tournée de 4 jours en Afrique centrale, qu'il a amené notamment d'abord au Gabon, où il a rencontré le président Ali Bongo. Et notamment, c'était l'occasion d'un sommet sur la question de la déforestation et sur la question du soutien apporté aux forêts primaires, évidemment question essentielle sur le plan climatique. Ensuite, il est parti en Angola, et là, c'est intéressant, lien avec notre premier sujet, où c'était la question notamment alimentaire et la question agricole qui était au cœur, parce que la France, historiquement, en Angola, a des intérêts pétroliers très importants, notamment via Total, mais souhaite diversifier un petit peu ses liens avec l'économie angolaise, et puis ensuite est allé au Congo-Brazzaville, où il a rencontré le président Sassou Nguesso, et puis il était en République démocratique du Congo et à Kinshasa.
Deux petits commentaires. Le premier, la France-Afrique, c'est terminé. Donc là, le président Macron vient de le redire. Il avait dit aussi en 2017, François Hollande avait également dit à son arrivée, la France-Afrique, c'est terminé. Et Nicolas Sarkozy, pendant sa campagne en 2017, avait dit plus ou moins la même chose. Donc ça fait depuis bientôt 20 ans que la France-Afrique, c'est terminé et qu'on ne cesse de le répéter. C'est, à force de le répéter, ça en devient un peu louche. Ou ridicule, en fait. Donc, on a du mal à comprendre exactement ce que ça veut dire. J'ai pas l'impression, mais tu as sûrement plus d'observations de cette situation que moi, que les dirigeants britanniques viennent tous les 4 matins en Afrique, ou dès qu'il y a un nouveau Premier ministre, dire, écoutez, les relations traditionnelles entre le Royaume-Uni et l'Afrique, c'est terminé. Donc, on peut dire qu'on s'y prend pas forcément extrêmement bien. Tu disais aussi qu'on est au milieu du gué. Je crois que c'est une très bonne image. Et ça s'est encore vu dans cette tournée diplomatique, qui avait quand même beaucoup de très bonnes intentions. Mais qu'est-ce qu'on risque de retenir? Alors, peut-être que c'est la faute des médias et qu'on ne devrait pas retenir ça. Mais de fait, l'image, à mon avis, une des images qui restera, c'est cette conférence de presse conjointe à Kinshasa avec le président de la République démocratique du Congo, assez inhabituelle. D'un point de vue des codes diplomatiques, assez vivace. Alors on peut dire que c'est vivifiant, peut-être intellectuellement, mais c'est assez inhabituel. Et il y a quand même ce message d'Emmanuel Macron assez fort lorsqu'il dit aux habitants et au président de la République démocratique du Congo, depuis 1994, vous n'avez jamais été souverain. C'est quand même vous n'avez jamais réussi à être vraiment souverain. Ce qui est quand même très, très dur. Alors, il y a peut-être un fond de vérité. On va pas débattre de cela. Il y a beaucoup de jurés, beaucoup de choses à dire. Mais on avait beaucoup reproché à Nicolas Sarkozy son fameux discours de Dakar, lorsqu'il avait dit notamment que, au milieu de beaucoup de choses, mais c'est ce qu'on avait retenu, que l'homme africain n'était pas rentré dans l'histoire. Là, je crois qu'on a encore une fois un exemple d'une politique et d'un discours diplomatique qui dit à la fois la France-Afrique, c'est terminé, on parle d'égal à égal, et en même temps, de donner des conseils ou, on va dire, de faire des constats probablement en grande partie très justes, mais qui peuvent relever du paternalisme. Alors, une fois qu'on a dit ça, on se dit, mais en fait, la situation est totalement intenable. Mais c'est là où je trouve que c'est toujours intéressant, la diplomatie et la géopolitique. Tu as des mouvements, des grands mouvements de plaques tectoniques passionnants à analyser au fil des décennies avec des vraies constances dans les diplomaties de nos différents pays, parfois des ruptures, mais on va dire des grands mouvements. Et puis toujours cette dimension humaine qui fait qu'il y a des ententes entre chefs d'État plus ou moins fortes. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites à propos de la détérioration des relations avec le Maroc, on se rend compte tout de même qu'au-delà de vrais problèmes de fond, de visa, la question du Sahara occidental, il y a aussi des questions comportementale.
Oui, alors moi je serais peut-être moins sévère que toi, hein. Et puis bon, sur les relations interpersonnelles, je ne les connais pas nécessairement, mais j'ai regardé comme toi la conférence de presse entre le président Macron et le président Tshisekedi à Kinshasa. Je pense que c'est juste extrêmement difficile aujourd'hui pour la France, parce que tu es dans une situation où si tu ne t'impliques pas, si tu n'interviens pas, tu es accusé de te désintéresser de ces conflits, de ces pays. Or, il y a une demande sur le terrain de la société civile, mais aussi des dirigeants, que la France, en l'occurrence, sur les conflits qui opposent aujourd'hui certaines milices, notamment soutenues par le Rwanda et la République démocratique du Congo, il est demandé aux Français d'intervenir. Et en même temps, si tu interviens, tu es accusé d'ingérence. On avait aussi vu la question avec le Mali sous Hollande, où quand on était intervenu, c'était quand même à la demande, c'était pour éviter qu'un émirat djihadiste domine toute la région. La France intervient et ensuite, elle est aujourd'hui accusée de tous les maux et doit partir parce qu'un régime putschiste corrompu et soumis à Wagner a pris le pouvoir. Donc, tu as aussi parfois des demandes très contradictoires, il faut aussi le reconnaître, de dirigeants africains. Tu aussi fais face à une réalité qui est malheureusement une réalité, tu comparais avec le Royaume-Uni. Bon, il faut aussi être honnête aujourd'hui. Tu regardes un certain nombre de pays qui étaient historiquement les colonies britanniques, tu t'aperçois qu'un certain nombre de pays ont pris le virage de la démocratie, alors font face à des difficultés majeures, et on va parler dans un instant du Nigeria. Bon an, mal an, il y a des démocraties, ça avance économiquement. Un pays comme le Ghana, par exemple, est aujourd'hui un pays qui a fait d'immenses progrès. À l'inverse, ce que tu constates, et ça, on paie aussi le prix du passé, et on paie aussi, je pense, le prix ici de politiques passées qui ont probablement été très néfastes. Quand le président Macron, et c'est son rôle, va au Congo-Brazzaville et rencontre le président Sassou Nguesso. Le président Sassou Nguesso tient d'une main de fer son pays depuis 40 ans. Quand il va au Gabon et qu'il rencontre Ali Bongo, c'est le fils d'Omar Bongo qui était un élément central de la France-Afrique. Donc effectivement, je pense que c'est juste aussi incroyablement compliqué pour la France aujourd'hui de développer cette politique. Si je regarde du côté des intérêts privés de nos entreprises, beaucoup d'entreprises françaises aujourd'hui quittent l'Afrique. Il faut aussi dire clairement, c'est lié au fait que les contraintes tout à fait légitimes, mais de lutte anticorruption, de transparence, etc., qui sont imposées au groupe européen, ne sont pas du tout les mêmes que celles qui sont imposées au groupe chinois, au groupe turc, au groupe du Golfe, qui peuvent agir de manière complètement différente en Afrique. Donc aussi, on a un problème tout simplement de capacité à agir sur certains de ces marchés. Et donc tout ça rend notre action diplomatique, économique, militaire, beaucoup, beaucoup plus difficile. Et puis, dernier point quand même que le président Macron essaie de pousser en Afrique, et là je pense que là-dessus il a raison, lui essaie de dire, il faut aussi qu'on ait beaucoup plus une réflexion sur la politique européenne à l'égard de l'Afrique. Parce que, en fait, ce qu'on s'aperçoit quand même, c'est que si on veut être capable de concurrencer, par exemple, sur les projets d'infrastructure, la Chine, en Afrique, c'est pas la France, avec ses moyens budgétaires, qui sera capable de le faire. C'est au niveau européen. Et là, il y a un autre problème auquel les Français font face, c'est que malheureusement, nous, de par notre histoire, on a un intérêt pour l'Afrique, on a une sensibilité aux questions africaines, mais il y a beaucoup de pays en Europe, va en Europe de l'Est, va en Europe du Nord, qui se contrefichent royalement de ce qui se passe en Afrique.
Il y a un autre point où Emmanuel Macron a raison, je pense. En tout cas, il a raison d'insister là-dessus, au-delà de toute son action, comme tu viens de le rappeler, au niveau européen. C'est aussi cette volonté de mettre en action des deux côtés, hein, en France, en Europe, en Afrique, ce qu'on appelle traditionnellement les forces vives. Les jeunes entrepreneurs, dans des domaines très variés, mais parfois dans des domaines de pointe. Et là, je crois que c'est une action qui est assurément positive. Bien sûr que c'est très facile de commenter les discours, les méthodes, les impairs, et de critiquer, comme tu l'as dit, la situation, elle est complexe. Bon, on peut s'attendre, bien sûr, toujours le meilleur de la personne qui nous représente. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, qui rajoute à tous les éléments de contexte que tu as évoqués, c'est aussi l'évolution médiatique. C'est-à-dire, aujourd'hui, la parole d'un chef d'État comme Emmanuel Macron, lorsqu'il fait un discours à Kinshasa, c'est pas uniquement les extraits que vont choisir les médias, télé ou presse écrite de relayer. C'est quasiment vu en direct et commenté partout, sur les opinions publiques, par les opinions publiques, sur les groupes WhatsApp, sur Facebook, sur Twitter. Donc, la situation est déjà complexe, mais elle est encore plus complexe étant donné la diffusion rapide, extrêmement rapide de l'information, et aussi dans le cadre d'une montée des susceptibilités identitaires partout dans le monde, partout dans nos régions, dans nos pays et même à l'échelle du continent. Ce qu'il faut rappeler pour l'Afrique, on l'avait fait dans un épisode précédent, c'est aussi la grande diversité des problématiques. Tu parlais de certaines démocraties dans des pays qui auparavant étaient des colonies britanniques. Il y en a aussi quelques-unes pour les pays qui étaient auparavant des colonies françaises. On a souvent présenté, même si les situations aujourd'hui sont un peu détériorées, on a quand même très souvent présenté le Sénégal, le Bénin comme des vitrines démocratiques importantes. Ça aussi, c'est quand même des anciennes colonies françaises. Mais la question du Maghreb, ces relations à trois entre France, Algérie, Maroc est extrêmement différente, repose sur des histoires beaucoup plus complexes. Donc voilà, on a souvent tendance à considérer l'Afrique comme un bloc. Alors, en fait, c'est une multitude de pays, multitude de rapports de force. Et il y a un pays qu'on évoque finalement très peu dans cet univers-là, mais qui en fait va devenir la première puissance à tout point de vue africaine, c'est le Nigeria. Et ça, je crois que tu voulais en parler un peu.
Oui, je voulais en parler un peu parce que moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très étonnant en France, c'est que le Nigeria, c'est la plus grande démocratie africaine, c'est la plus grande économie africaine, c'est 210 millions d'habitants. Il y a cette statistique incroyable qu'en 2050, un bébé sur 10 qui naîtra dans le monde naîtra au Nigeria. Donc, c'est un pays qui, par ailleurs, a un soft power assez extraordinaire. Alors, on a tendance à l'oublier, mais aujourd'hui, le cinéma qui est consommé en majorité en Afrique, c'est du cinéma nigérian, c'est Nollywood. La musique, c'est l'afrobeat, dont la scène musicale principale, c'est le Nigeria. C'est également un pays qui participe à beaucoup d'opérations de maintien de la paix. C'était le cas notamment au Sierra Leone, au Liberia, au Darfour. Donc, qui, en fait, a un soft power qui est en train de considérablement grandir, même si c'est un pays qui joue probablement en dessous de son potentiel. Et pourtant, on en parle très très peu. Or, moi, je voulais revenir dessus très brièvement parce qu'il y a eu des élections qui ont eu lieu dans ce pays la semaine dernière. Il y avait trois candidats principaux. Il faut savoir que le Nigeria, juste en quelques mots, c'est un pays qui, malheureusement, a un potentiel extraordinaire, mais a beaucoup souffert au cours des dernières décennies d'une très mauvaise gouvernance. Et notamment, le président Buhari, qui avait pris le pouvoir en 2015, laisse le pays dans un état, sur le plan économique, assez désastreux, une inflation à 21% en décembre, en moyenne des Nigérians qui sont plus pauvres aujourd'hui qu'ils ne l'étaient en 2015 quand il a pris le pouvoir. Et puis surtout, un jeu politique qui est de plus en plus déterminé uniquement par les lignes religieuses. Si je caricature, il y a les chrétiens au sud, les musulmans au nord, sur des questions ethniques et un système bipartisan qui se divise un petit peu selon ces lignes. Alors, la campagne a été très intéressante parce qu'on a eu un troisième candidat qui est arrivé et dont on a donné le sentiment qu'il allait un petit peu secouer le jeu politique. Il s'appelle Peter Obi, c'était le gouverneur de l'État d'Anambra et lui, en fait, a fait quelque chose qui n'est pas fréquent au Nigeria, c'est qu'il a dit « Écoutez, moi, ne votez pas pour moi sur des lignes d'ordre religieuse ou ethnique, mais je viens avec un certain nombre de propositions, donc votez pour moi pour des questions de compétences, en fait. » Et son programme était assez intéressant parce que son programme avait toute une série de mesures très concrètes, où notamment il disait aux Nigérians, ben voilà, il va falloir faire des réformes structurelles importantes parce que notre pays, dans les faits, est très mal géré. Un exemple absolument incroyable, le Nigeria est le premier exportateur de pétrole africain et pourtant le Nigeria en même temps dépense des milliards chaque année de subventions pour permettre l'accès à sa population au pétrole à un prix correct. Enfin, c'est phénomène qu'on retrouve au Venezuela ou dans ce genre de pays faillis.
C'est un peu comme si la France importait l'électricité alors qu'on est une grande puissance nucléaire.
Voilà, un peu pareil, effectivement. Et donc, malheureusement, quelque part, Peter Obi n'a pas été élu. C'est un candidat qui s'appelle Bola Tinubu, qui était le candidat du parti au pouvoir qui a été élu. Et alors, je ne peux pas m'empêcher quand même de mentionner son slogan de campagne, qui est assez extraordinaire et qui résume un peu tout le personnage. Le slogan de campagne était « C'est mon tour ». Donc, pendant des décennies, il avait vécu sur la bête. C'était un ancien gouverneur de Lagos, mais il était vu un peu comme le parrain du monde politique. Et c'était désormais son tour d'accéder aux plus hautes fonctions. Il a été élu. Mais malgré tout cela, je pense que le Nigeria fait partie de ces pays où, en l'occurrence, la France et l'Europe devraient investir encore plus, devraient renforcer les liens de manière beaucoup plus forte, parce que c'est un pays qui jouera sur la scène mondiale demain un rôle absolument déterminant.
Pas mal comme slogan, c'est mon tour. Et puis ça a le mérite d'être assez honnête.
Oui, effectivement.
C'est mon tour de quoi ? De manger, de gouverner. Enfin, ça laisse beaucoup d'horizons possibles. En tout cas, l'heure est pour nous de parler de nos coups de cœur, Jérémy.
Tout à fait. De revenir sur nos coups de cœur. Et je crois, mon cher Romain, que cette semaine, tu voulais nous parler d'une série de podcasts sur France Inter intitulée Opération Lima.
Oui, alors c'est une série de podcasts, une docu-fiction, une fiction basée sur des faits réels, et on peut l'écouter sur l'excellente application de Radio France, et effectivement, elle était originellement diffusée sur France Inter. Il s'agit d'un fait divers qui remonte à 2021, pendant le confinement, tu t'en souviens peut-être. C'était un fait divers inquiétant, mais qui pouvait sembler assez anodin avec le recul. C'est l'enlèvement d'une petite fille, la petite Mia, par deux ravisseurs qui agissaient sur ordre de sa propre mère. Alors, la petite fille était sous la garde définitive de sa grand-mère, car sa mère était jugée comme non apte psychologiquement à en avoir la charge. Et un jour d'avril 2021, deux faux inspecteurs sociaux se présentent, c'est sa grand-mère, enlèvent la fille, la remettent à la mère. Tout de suite, l'alerte enlèvement fut donnée, avec efficacité. Les autorités s'aperçoivent qu'il y a un commando, alors un peu baltringue et idéologique derrière cette opération. Et les gendarmes, avec l'aide de la DGSI, vont démanteler ce commando très rapidement, avec grande efficacité, puis un peu de chance aussi, en quelques jours à peine. Alors, je dis avec l'aide de la DGSI, parce que de fil en aiguille, les enquêteurs se rendent compte que l'enlèvement de la petite fille n'est qu'une opération dans un grand ensemble qui veut mener in fine, rien que ça, à un coup d'État. Donc, c'est le petit événement dans un grand événement. Alors, les gendarmes vont partir à la recherche de la mère kidnappeuse. Mia va être trouvée avec sa mère dans un squat en Suisse. Elle va être remise à sa grand-mère. Donc, tout est bien qui finit bien, même si, bien sûr, on peut imaginer quelques séquelles psychologiques pour la petite. Mais, globalement, ça va. Ce n'est pas, sur le papier, l'affaire du siècle. Alors, pourquoi je voulais quand même en parler rapidement dans le cadre de notre discussion? Parce que, tout d'abord, ça montre que la puissance du podcast, alors là on ne va pas faire de pub pro podcast, mais ça montre aussi la puissance du podcast, y compris pour le documentaire. C'est très bien, la série est très bien produite, jouée, car ce sont des acteurs bien sûr qui jouent avec beaucoup de rythme et d'efficacité. Il y a 6 épisodes d'une demi-heure en gros, c'est assez rapidement écouté, c'est très bien. Mais au-delà de cette promotion du format podcast, l'affaire est passionnante, parce que derrière ce commando se cache toute une mouvance politique ultra-minoritaire, marginale, mais dangereuse, parce qu'elle peut passer à l'acte. Il s'agit de gens assez paumés, en déshérence sociale, affective, parfois en rupture avec la société. Alors ce sont des personnes que l'on classe à l'extrême droite, mais la réalité est tout de même un peu plus complexe, parce que c'est un mélange un peu de tout. Tu as des survivalistes qui se préparent à une apocalypse, tu as des anti-vax, tu as des anti-sciences, tu as des complotistes qui ne croient en rien et qui voient des conjurations de type judéo-capitalisto-maçonnique absolument partout, et qui ont pour but de renverser les institutions. Il y a un mélange d'extrême droite, d'extrémisme écologique, d'antisémitisme, de gilets jaunes, d'antilibéralisme presque forcené, et puis, avec, en fond, une misère psychologique et sociale. Alors, ce sont des gens qui se disent comme éveillés, en anglais « woke hein. », et alors, même s'ils sont très différents des woke, des campus américains qu'on raille parfois, il y a quand même chez eux la même volonté de tout déconstruire, y compris par la violence, et tant pis pour les moutons, c'est-à-dire des gens comme toi et moi, hein, qui avons la bêtise de croire les actualités mainstream. Et donc cette série documentaire, elle nous permet de plonger au cœur de ces réseaux, qui sont manipulés par des personnes très dangereuses. Alors un des gourous de cette cellule dirigeait tout ça de Malaisie et s'est fait arrêter. Mais intéressant de noter que la majorité des protagonistes de cette affaire s'étaient connus dans les manifestations de Florent Philippot, à Paris. Donc on voit bien le danger de clowns comme Philippot, on voit bien qu'ils sont invités partout, on voit bien leur danger. Et pour terminer, ce que montre aussi ce documentaire, c'est que ces marges, parce que ce sont des marges, peuvent être dangereuses. Elles ne passent pas toujours à l'acte, mais elles envisagent des opérations de type terroriste, en fait, qui mêlent enlèvement d'enfants, dans ce cas, destruction d'antennes 5G, tentative de coup d'État avec planification d'assassinats politiques. Et donc on voit bien le danger de ces minorités parfois agissantes, de plus en plus radicalisées et nombreuses, qui s'affranchissent totalement du droit et de la raison la plus élémentaire pour renverser le système. Et c'est pas une tendance isolée, puisqu'il y a le même type d'unité de commando également dans l'écologie radicale, qui ont parfois pourtant bien plus la bienveillance des médias et des autorités, certaines franges extrémistes d'Extinction Rébellion. Et ce genre de dérive idéologique et sectaire, parce que c'est vraiment du sectarisme, se multiplie, et c'est un défi de plus pour les pouvoirs publics. Et cette série a le mérite de raconter tout ça à travers un fait divers, mais qui en fait nous emmène beaucoup plus loin. Donc je conseille cette série Opération Lima sur Radio France. Toi Jérémy, c'est aussi un autre sujet d'inquiétude, mais plus géopolitique et international. Tu voulais revenir sur un documentaire au sujet de Gazprom, qui là aussi met en relief des problématiques beaucoup plus larges, énergétiques et géopolitiques.
Romain, tu connais mon attachement à l'Allemagne et au couple franco-allemand, mais je dois dire que là, je vais être assez dur probablement avec nos amis et voisins allemands. Le documentaire est intitulé « Gazprom, l'arme parfaite ». C'est un documentaire qui est disponible sur Arte, qui a été réalisé par Anna Sadovnikova et Dirk Laps, et qui revient en fait sur la relation qui a uni, et c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que ça n'est pas né avec Nord Stream, mais ça n'est bien avant, dans les années 60, entre d'abord l'Allemagne de l'Ouest et l'URSS, cette relation énergétique. Et avec la construction, dès les années 60, 70, de pipelines et finalement d'un accès du gaz sibérien vers l'Allemagne, qui est vu comme absolument essentiel pour les intérêts économiques allemands et endossé par les différents chanceliers qui se succèdent, de gauche ou de droite d'ailleurs, jusqu'à la guerre en Ukraine. Et ça montre, en fait, ce documentaire est passionnant parce qu'il montre à la fois comment la Russie a fait du gaz une arme dans sa politique étrangère, historiquement, et comment, en fait, Poutine est probablement celui qui a pensé ça de la manière la plus stratégique et la plus détaillée. Je rappelle quand même, c'est quelque chose que je ne savais pas, mais que Poutine avait écrit un mémoire sur la question des dépendances énergétiques et la manière dont celles-ci peuvent être utilisées en matière de politique étrangère. Donc c'est quand même intéressant. Et en fait, ce que l'on s'aperçoit, c'est que Poutine est certes le maître du Kremlin, mais comme le dit une des personnes interrogées, c'était aussi dans les faits le PDG de Gazprom. Et Poutine a une véritable passion pour les questions énergétiques, connaît tous les chiffres, etc. Et en fait, toutes les décisions clés prises par Gazprom étaient prises par Vladimir Poutine, et que en fait les hommes qui dirigeaient Gazprom étaient complètement à la main de Poutine. Et c'est avec ce groupe, donc Gazprom, que l'Allemagne va décider d'établir des relations extrêmement fortes, et notamment par la mise en service d'abord d'un pipeline Nord Stream 1 en 2012, et 4 ans après l'annexion illégale de la Crimée, c'est quand même assez fou, et le début des hostilités dans le Donbass, le lancement du projet en 2018, Nord Stream 2. Et ce qui est absolument extraordinaire dans ce documentaire, c'est qu'on voit bien en fait combien côté allemand, ces décisions faisaient consensus à la fois au niveau des différents partis politiques. Alors évidemment, on a l'exemple de Gerhard Schröder, chancelier, qui lorsqu'il est au pouvoir est un soutien fervent de Nord Stream 1, et c'est quand même assez fou, 15 jours à peine après son éviction de la chancellerie, devient le lobbyiste en chef en fait de ce projet. Mais ce qu'on voit, c'est que cette politique va être complètement suivie ensuite par la chancelière Merkel. Ce que l'on voit aussi, c'est que tous les milieux d'affaires allemands soutiennent complètement cette politique. Et on voit notamment des groupes comme BASF, et d'ailleurs le PDG de BASF de l'époque, qui est vraiment une des chevilles ouvrières du projet Nord Stream, est interrogé et explique que voilà, ils considèrent encore qu'ils ont pris la bonne décision. Et on s'aperçoit combien en fait l'industrie allemande et le gouvernement allemand sont intimement liés, et combien la défense des intérêts industriels allemands sont complètement assimilés à la défense de l'intérêt allemand en général. Et puis même, le service diplomatique allemand, et tu as notamment quelqu'un comme Wolfgang Ischinger, qui a été ambassadeur de l'Allemagne aux États-Unis, qui a été également président de la conférence sur la sécurité de Munich, aux diplomates allemands, qui en fait t'explique que ça a toujours fait consensus, cette politique, au sein des élites allemandes. Et même aujourd'hui, tu sens pas du tout de regret par rapport à ça. Et ça, c'est assez frappant. Et donc, tu as un certain nombre d'interlocuteurs qui sont interrogés au plus haut niveau, côté américain, côté européen. Et tu as d'ailleurs, je trouve, une formule très belle qui est utilisée à un moment par le ministre des Affaires étrangères polonais de l'époque, Radoslav Sikorski, qui est un personnage par ailleurs assez romanesque, qui, parlant de la relation gazière entre la Russie et l'Allemagne, a cette formule, je trouve, très juste. Et je le cite, « Il y avait effectivement une interdépendance, celle qu'il y a entre un loup et un agneau. » Et je crois que ça résume tout, en fait. Et ce qui est assez fou, c'est que, bien que la Russie, dès 2005, utilise l'arme du gaz de manière perpétuelle pour faire pression, comme elle l'avait fait d'ailleurs durant la guerre froide sur ses satellites, à partir de 2005, ils coupent le robinet du gaz vers la Géorgie, ils coupent le robinet du gaz vers l'Ukraine, ils coupent le robinet du gaz vers différents pays. Malgré tout, il n'y a aucune remise en question côté allemand de cette politique de dépendance énergétique à l'égard de la Russie, qui nous conduit dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et donc, ce documentaire est passionnant parce qu'il rappelle ça de manière très détaillée, très étayée et historique. Et c'est un bon rappel qui nous amène évidemment à réfléchir sur la situation actuelle.
Passionnant, peu réjouissant, mais passionnant. Et donc, à voir sur Arte.
Sur Arte, tout à fait.
comme souvent, de très bons programmes. Merci beaucoup Jérémy, merci à nos auditeurs pour leur fidélité. Si vous aimez ces podcasts, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre, à nous mettre le maximum d'étoiles sur vos plateformes préférées. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine.